Bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien commencé à manger. Et comme l'a dit Maxime, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir pour fêter ensemble le 14 juillet. Car en effet, il y a des événements qui transforment une nation, qui en changent complètement la destinée. Alors quand je dis cela, vous pensez sûrement au 12 juillet 98, quand nous avons gagné pour la première fois la Coupe du Monde. Ou alors dans le futur, quand on repensera à demain, le jour où on aura gagné pour la deuxième fois la Coupe du Monde. C'est peut-être un spoiler pour vous, mais ça va être le cas. Vous pensez plutôt, sûrement et plus probablement, je pense, à cet événement qui nous réunit ce soir, en fait. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Un événement qui a transformé la politique, la culture, la mentalité française. C'est un véritable tournant, en fait, dans l'histoire de France. Un changement de régime radical. Alors pourtant, mon objectif ce soir, ce n'est pas de vous parler du 14 juillet 1789, mais plutôt d'un autre événement historique qui a complètement bouleversé le destin de l'humanité entière, en fait. Un changement de régime qui a eu des conséquences à l'échelle de la planète. Mais avant de vous en dire plus sur cet événement, Atalia va nous lire un texte de la Bible qui fait référence à ce changement de régime, et vous pouvez en trouver des copies sur votre table.
Donc nous lisons dans Luc 3, versets 1 à 18. La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du royaume du territoire de l'Iturée et de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il lui répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple.
Merci Atalia. Alors Jean-Baptiste, le personnage principal de notre texte ce soir est un messager. Son job, c'est annoncer la venue de Jésus, qui va arriver un peu plus tard dans l'histoire. Et annoncer avec lui l'arrivée d'un régime complètement différent. Alors en quoi ce régime est-il complètement différent ? Il est complètement différent car il est nouveau et il est radicalement différent de celui d'aujourd'hui. C'est notre premier point ce soir. Ce régime est nouveau car il est fondamentalement différent de celui d'aujourd'hui. Alors 1789 a marqué le changement politique et donc de la manière dont la France était gouvernée. L'arrivée de Jésus a des conséquences encore plus profondes. Regardez les versets 11 à 14 de notre texte. Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a à manger fasse de même. » Vous voyez, dans ce régime, plus personne n'est dans le besoin, car ceux qui ont partagent avec ceux qui n'ont pas. Plus personne n'est dans le besoin. Dans ce régime, il n'y a pas de mendiants, il n'y a pas de migrants abandonnés, il n'y a plus de famine. Ou alors, un peu plus tard, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. C'est aussi un régime de justice et de paix, où le faible n'est plus en danger car personne ne profite plus de lui. C'est un monde où il n'y aurait par exemple plus de services aux personnes maltraitées, tout simplement parce qu'il n'y aurait plus de personnes maltraitées, du tout. C'est donc un régime, un monde complètement différent, radicalement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui, et particulièrement de celui que l'on voit à la télé le soir aux infos. Et j'imagine que c'est un monde dans lequel on aimerait tous vivre. Un monde de paix, un monde d'harmonie. Cela ne vous fait-il pas rêver? Ne trouvez-vous pas ce régime attrayant? Alors bien sûr, une part de nous peut se dire « c'est trop beau pour être vrai. Comment un tel monde pourrait exister ?» Mais Jésus nous donne la preuve qu'un tel monde peut exister. Dans le reste de son histoire, Luc, qui est un des écrivains de la Bible, nous démontre comment Jésus a fait de ce régime une réalité historique. Lors de sa première venue sur terre, Jésus nous a donné un avant-goût de ce à quoi ce régime ressemble. Il a secouru, il a protégé des pauvres, des veuves, des rejetés, des mendiants. Et ce n'est pas tout. Jésus a aussi guéri des malades. Il a chassé le mal autour de lui. Il a même ressuscité des morts. En gros, Jésus a le pouvoir de mettre fin à la pauvreté, à la maladie, à la mort. Et ce n'est donc pas un régime imaginaire, un monde imaginaire. Et même si aujourd'hui nous ne le voyons pas de manière visible, Jésus a promis de revenir une deuxième fois sur terre pour établir ce régime de manière définitive. Alors, Dieu n'est donc pas un despote tyrannique comme certains semblent ou se l'imaginent. Il a envoyé Jésus pour établir un monde dont nous rêvons tous. Un monde de paix, d'harmonie. Quelle joie de savoir qu'un tel monde est possible, est une réalité. Mais je sais aussi qu'une part de nous a du mal à s'imaginer, à vivre dans un tel monde. En effet, s'il existe un tel monde d'harmonie, de paix complète, suis-je, moi, adapté pour y vivre? Et c'est notre deuxième point ce soir. Suis-je adapté pour vivre dans ce monde? C'est une question tout à fait légitime. En effet, nous savons très bien nous-mêmes que nous ne sommes pas de nature altruiste, que nous ne sommes pas généreux. Malgré la façade, nous avons du mal à désirer véritablement le bonheur des autres. Non, de nature en fait, on est plutôt égoïste. Et Jean-Baptiste nous appelle, nous tous, humains, une race de vipères. Alors même si me faire insulter n'est pas mon activité préférée, je sais bien que Jean-Baptiste a raison. Nous ne sommes pas adaptés à vivre dans ce nouveau régime. Et c'est un problème. Nous ne sommes pas adaptés à vivre dans un tel régime. Et c'est un problème. Selon la Bible, cet égoïste envers notre prochain n'est que le symptôme d'un mal encore plus profond. Parce que nous désirons être les monarques absolus de nos vies, parce que nous ne voulons pas que quiconque nous dise quoi faire, nous avons tous rejeté Dieu qui est le Créateur. Nos désirs sont opposés aux siens et nous ne cherchons ni à l'écouter, ni à faire le bien qu'il a pour nous. Et c'est pour cela, en fait, que notre monde est si différent de celui que Dieu veut. Et c'est pour cela que Dieu envoie Jésus pour ramener un régime de paix et d'harmonie. De nature, nous ne sommes pas adaptés à ce nouveau régime. Pourquoi est-ce un problème? Le problème, c'est qu'un nouveau régime signifie la fin de l'ancien. C'est-à-dire la fin du monde que l'on connaît aujourd'hui et nous avec. L'arrivée de Jésus signe le début de la fin de ce monde-ci. Regardez avec moi le verset 9 sur vos textes. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Ou alors plus tard, au verset 17, « mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Oui, la Bible parle de l'enfer. C'est là où l'ancien régime, qui est mauvais, et tout ce qui lui appartient sera détruit. Et c'est tout à fait logique que le Dieu créateur de toute bonne chose cherche à détruire ce qui a été transformé en mal. C'est un jugement, en fait, tout à fait légitime. Par exemple, le début de la République a mis fin au régime de la monarchie dans les événements qui ont suivi le 14 juillet 89. Cela a signifié la fin des vestiges de la monarchie. Cela a surtout signé la condamnation et l'arrêt de mort de Louis XVI, le roi de France. Alors nous aussi, puisque nous appartenons à l'ancien régime qui est mauvais, nous n'avons d'autre espoir que d'être condamnés. Alors la question c'est, est-ce sans espoir pour nous ? Ce serait un peu terrible pour moi de vous inviter à faire la fête ici avec nous ce soir et de vous balancer ce genre de truc à la tête. Bon, nous allons tous mourir. Le truc c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Le truc c'est que Jésus ne vient pas seulement pour juger le monde et le détruire. Il vient aussi pour nous offrir la chance de le recevoir et d'entrer ce nouveau régime. Et c'est notre dernier point ce soir. Jésus nous offre aussi la chance de le recevoir. C'est le cœur du message de Jean-Baptiste. C'est le cœur du message de Luc, l'écrivain de ces histoires. Et c'est le cœur du message de toute la Bible, en fait. Premièrement, nous pouvons être pardonnés de notre faute, de notre rejet de Dieu. C'est exactement à cette fin que Jean-Baptiste prêche le baptême de repentance. Regardez le verset 3, en haut du texte. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. La repentance amène au pardon. Ce qui ensuite nous amène à être acceptés dans le nouveau régime. Regardez les versets 16 à 17 de notre texte. Lui, c'est-à-dire Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a la pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amènera le blé dans son grenier. Recevoir l'Esprit Saint, cela veut dire être sauvé, être transformé en un individu qui est compatible, qui est adapté à ce nouveau régime. Si vous vous demandez comment est-ce que ça marche, n'hésitez pas à venir me poser la question ou à poser la question autour de vos tables. Mais l'essentiel est là. Il y a un espoir pour être accepté dans ce nouveau régime. Alors si ce soir, en venant, en ayant été invité à cet événement, vous vous demandiez, souvent les chrétiens parlent de la bonne nouvelle, mais qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle ? En voici maintenant un résumé avec ce que je vous ai dit juste avant. Dieu vient établir un monde de paix et d'harmonie. Et la première venue de Jésus nous annonce l'arrivée de ce régime, que c'est bien quelque chose de vrai. Mais pour cela, pour amener ce nouveau régime, il doit mettre fin à l'ancien, à celui du mal. Et malgré notre appartenance à cet ancien régime, malgré notre rejet de Dieu, et malgré notre condamnation méritée à être détruite comme dans cet ancien régime, Dieu nous offre à chacun la possibilité de faire partir du nouveau. À tous ceux qui auront demandé pardon, qui se seront repentis, Jésus promet de les sauver, de leur donner le Saint-Esprit, de leur donner accès à ce nouveau régime de justice, de paix, un régime dont nous rêvons tous. Alors, si vous n'avez pas encore fait le pas de vous repentir dans votre vie, de demander pardon à Dieu pour le rejet de lui, et si vous n'avez jamais, par le passé, accepté son offre de faire partie de ce nouveau régime, qu'est-ce qui vous en empêche de le faire aujourd'hui ? Et c'est une vraie question que je vous pose ce soir. Qu'est-ce qui vous en empêche d'accepter cette offre de Dieu ? Nous allons maintenant passer au dessert, dans quelques minutes, qui sera servi derrière vous sur une table. Mais pour ne pas vous empêcher de continuer à réfléchir à ce nouveau régime, je vous propose, après être allé vous servir, de retourner à vos places, aux places où vous avez mangé, pour pouvoir continuer la discussion en regardant les questions qui sont suggérées. Donc, au milieu de vos tables, vous verrez un petit papier avec quelques questions de conversation. Ne vous sentez pas obligé de faire toutes les questions ou même de les faire dans l'ordre. C'est simplement des suggestions de conversation pour pouvoir continuer à parler de ce régime. Et puis si vous avez d'autres questions qui ne font pas partie de cette liste, mais qui sont des questions que vous avez par rapport à la foi chrétienne, n'hésitez pas à les poser aux personnes de vos tables ou à venir me trouver à la fin de la soirée pour me poser ces questions. Maxime reviendra d'ici 20 à 30 minutes pour clôturer le moment de discussion. En attendant, j'espère que vous profiterez bien du reste de la soirée. Merci beaucoup.